Voltaire, le taureau blanc. Chapitre 1er. Comment la princesse Amasside rencontra un bœuf. La jeune princesse Amasside, fille d'Amasis, roi de Tanis en Égypte, se promenait sur le chemin de Péluse avec les dames de sa suite. Elle était plongée dans une tristesse profonde, les larmes coulaient de ses beaux yeux. On sait quel était le sujet de sa douleur et combien elle craignait de déplaire au roi son père par sa douleur même. Le vieillard Mambrès, ancien mage et eunuque des pharaons, était auprès d'elle et ne la quittait presque jamais. Il la vit naître, il l'éleva, il lui enseigna tout ce qu'il est permis à une belle princesse de savoir des sciences de l'Égypte. L'esprit d'Amasside égalait sa beauté, elle était aussi sensible, aussi tendre que charmante, et c'était cette sensibilité qui lui coûtait tant de pleurs. La princesse était âgée de 24 ans. Le mage Mambrès en avait environ 1300. C'était lui, comme on sait, qui avait eu avec le grand Moïse cette dispute fameuse dans laquelle la victoire fut longtemps balancée entre ces deux profonds philosophes. Si Mambrès succomba, ce ne fut que par la protection visible des puissances célestes qui favorisèrent son rival. Il fallut les dieux pour vaincre Mambrès. Amasis le fit surintendant de la maison de sa fille, et il s'acquittait de cette tâche avec sa sagesse ordinaire. La belle Amasside l'attendrissait par ses soupirs. « Ô mon amant, mon jeune et cher amant !» s'écriait-elle quelquefois. « Ô le plus grand des vainqueurs, le plus accompli, le plus beau des hommes ! Quoi, depuis près de 7 ans, tu as disparu de la terre ? Quel dieu t'a enlevé à ta tendre Amasside ? Tu n'es point mort, les savants prophètes de l'Égypte en conviennent, mais tu es mort pour moi. Je suis seul sur la terre, elle est déserte. Par quel étrange prodige as-tu abandonné ton trône et ta maîtresse ? Ton trône, il était le premier du monde, et c'est peu de chose, mais moi qui t'adore, ô mon cher Na ! » Elle allait achever. Tremblez de prononcer ce nom fatal, lui dit le sage Mambrès, ancien eunuque et mage des pharaons. Vous seriez peut-être décelé par quelqu'une de vos dames du palais. Elles vous sont toutes dévouées, et toutes les belles dames se font sans doute un mérite de servir les nobles passions des belles princesses. Mais enfin, il peut se trouver une indiscrète, de même à force une perfide. Vous savez que le roi votre père, qui d'ailleurs vous aime, a juré de vous faire couper le cou si vous prononciez ce nom terrible, toujours prêt à vous échapper. Pleurez, mais taisez-vous. Cette loi est bien dure, mais vous n'avez pas été élevé dans la sagesse égyptienne pour ne savoir pas commander à votre langue. Songez qu'Harpocrate, l'un de nos plus grands dieux, a toujours le doigt sur la bouche. La belle Amasside pleura et ne parla plus. Comme elle avançait en silence vers les bords du Nil, elle aperçut de loin, sous un bocage baigné par le fleuve, une vieille femme couverte d'un lambeau gris, assise sur un tertre. Elle avait auprès d'elle une ânesse, un chien, un bouc. Vis-à-vis d'elle était un serpent qui n'était pas comme le serpent ordinaire, car ses yeux étaient aussi tendres qu'animés. Sa physionomie était noble et intéressante, sa peau brillait des couleurs les plus vives et les plus douces. Un énorme poisson, à moitié plongé dans le fleuve, n'était pas la moins étonnante personne de la compagnie. Il y avait sur une branche un corbeau et un pigeon. Toutes ces créatures semblaient avoir ensemble une conversation animée. « Hélas !» dit la princesse tout bas, « ces gens-là parlent sans doute de leurs amours, et il ne m'est pas permis de prononcer le nom de ce que j'aime. » La vieille tenait à la main une chaîne légère d'acier, longue de 100 brasses, à laquelle était attaché un taureau qui paissait dans la prairie. Ce taureau était blanc, fait autour, potelé, léger même, ce qui est bien rare. Ses cornes étaient d'ivoire. C'était ce qu'on vit jamais de plus beau dans son espèce. Celui de Pasiphae, celui dont Jupiter prit la figure pour enlever Europe, n'approchait pas de ce superbe animal. La charmante génisse en laquelle Isis fut changée aurait à peine été digne de lui. Dès qu'il vit la princesse, il courut vers elle, avec la rapidité d'un jeune cheval arabe qui franchit les vastes plaines et les fleuves de l'antique Sahana pour s'approcher de la brillante cavale qui règne dans son cœur et qui fait dresser ses oreilles. La vieille faisait ses efforts pour le retenir. Le serpent semblait l'épouvanter par ses sifflements. Le chien le suivait et lui mordait ses belles jambes. L'ânesse traversait son chemin et lui détachait des ruades pour le faire retourner. Le gros poisson remontait le Nil et, s'élançant hors de l'eau, menaçait de le dévorer. Le bouc restait immobile et, saisi de crainte, le corbeau voltigeait autour de la tête du taureau comme s'il eût voulu efforcer de lui crever les yeux. La colombe seule l'accompagnait par curiosité et lui applaudissait par un doux murmure. Un spectacle si extraordinaire rejeta Mambrèse dans ses sérieuses pensées. Cependant le taureau blanc, tirant après lui sa chaîne et la vieille, était déjà parvenu auprès de la princesse, qui était saisie d'étonnement et de peur. Il se jette à ses pieds, il les baise, il verse des larmes, il la regarde avec des yeux où régnait un mélange inouï de douleur et de joie. Il n'osait mugir de peur d'effaroucher la belle Anaside. Il ne pouvait parler. Un faible usage de la voix accordé par le ciel à quelques animaux lui était interdit, mais toutes ses actions étaient éloquentes. Il plut beaucoup à la princesse. Elle sentit qu'un léger amusement pouvait suspendre pour quelques moments les chagrins les plus douloureux. « Ah, voilà, disait-elle, un animal bien aimable, je voudrais la voir dans mon écurie. » À ces mots, le taureau plia les quatre genoux et baisa la terre. « Mais il m'entend !» s'écria la princesse. « Il me témoigne qu'il veut m'appartenir. Ah, oh, divin mage, divine eunuque, donnez-moi cette consolation. Achetez ce beau chérubin. Faites le prix avec la vieille, à laquelle il appartient sans doute. Je veux que cet animal soit à moi. Ne me refusez pas cette consolation innocente. » Toutes les dames du palais joignirent leurs instances aux prières de la princesse. Mandresse se laissa toucher et alla parler à la vieille. Chapitre second. Comment le sage Mambrèse, ci-devant sorcier de Pharaon, reconnut une vieille et comment il fut reconnu par elle. « Madame, lui dit-il, vous savez que les filles et surtout les princesses ont besoin de se divertir. La fille du roi est folle de votre taureau. Je vous prie de nous le vendre, vous serez payé argent comptant. »«
Seigneur, lui répondit la vieille, ce précieux animal n'est point à moi. Je suis chargée, moi et toutes les bêtes que vous avez vues, de le garder avec soin, d'observer toutes ses démarches et d'en rendre compte. Dieu me préserve de vouloir jamais vendre cet animal impayable. »
Mambrèse, à ce discours, se sentit éclairé de quelques traits d'une lumière confuse qui ne démêlait pas encore. Il regarda la vieille au manteau gris avec plus d'attention. « Respectable dame, lui dit-il, ou je me trompe, ou je vous ai vu autrefois. »«
Non, je ne me trompe pas, répondit la vieille. Je vous ai vu, Seigneur, il y a 700 ans dans un voyage que je fis de Syrie en Égypte, quelques mois après la destruction de Troie, lorsque Hiram régnait à Tyr et qu'elle fait le caresse sur l'antique Égypte.
Ah, madame, s'écria le vieillard,
Vous êtes l'auguste pythoniste d'Endor.
Et vous, seigneur,
lui dit la pythonisse en embrassant, vous êtes le grand Mambrès d'Égypte.
Oh, rencontre imprévue, jour mémorable, décrets éternels, dit Mambrès. Ce n'est pas sans doute sans un ordre de la Providence universelle que nous nous retrouvons dans cette prairie, sur les rivages du Nil, près de la superbe ville de Tanis. Quoi, c'est vous, madame, qui êtes aussi fameuse sur les bords de votre petit Jourdain et la première personne du monde pour faire venir les ombres?
Moi, c'est vous, seigneur, qui êtes si fameux pour changer les baguettes en serpents, le jour en ténèbres et les rivières en sang.
Oui, madame, mais mon grand âge affaiblit une partie de mes lumières et de ma puissance. J'ignore d'où vient ce beau taureau blanc et qui sont ces animaux qui veillent avec vous autour de lui. La vieille se recueillit, leva les yeux au ciel, puis répondit en ces termes.
« Mon cher Mambrès, nous sommes de la même profession, mais il m'est extrêmement défendu de vous dire quel est ce taureau. Je puis vous satisfaire sur les autres animaux. Vous les reconnaîtrez aisément aux marques qui les caractérisent. Le serpent est celui qui persuade à Ève de manger une pomme et d'en faire manger à son mari. » L'ânesse est celle qui parla dans un chemin creux à Balaam, votre contemporain. Le poisson qui a toujours sa tête hors de l'eau est celui qui avala Jonas il y a quelques années. Ce chien, c'est celui qui suivit l'ange Raphaël et le jeune Toby dans le voyage qu'ils firent à Rages en Médie du temps du grand Salmanazar. Ce bouc est celui qui expie tous les péchés d'une nation. Ce corbeau et ce pigeon sont ceux qui étaient dans l'arche de Noé, grand événement, catastrophe universelle, que presque toute la terre ignore encore, voilà au fait. Mais pour le taureau, vous n'en saurez rien.
Mambrès écoutait avec respect. Puis il dit... « L'Éternel révèle ce qu'il veut et à qui il veut, illustre pythonisse. Toutes ces bêtes qui sont commises avec vous à la garde du taureau blanc ne sont connues que de votre généreuse et agréable nation, qui est elle-même inconnue à presque tout le monde. Les merveilles que vous et les vôtres et moi et les miens nous avons opérées seront un jour un grand sujet de doute et de scandale pour les faux sages. Heureusement, elles trouveront croyance chez les sages véritables qui seront soumis aux voyants dans une petite partie du monde. Et c'est tout ce qu'il faut. » Comme il prononçait ces paroles, la princesse le tira par la manche et lui dit « Mambrès, est-ce que vous ne m'achèterez pas mon taureau ?» Le mage, plongé dans une rêverie profonde, ne répondit rien, et Amasine versa des larmes. Elle s'adressa alors elle-même à la vieille et lui dit « Ma bonne, je vous conjure, par tout ce que vous avez de plus cher au monde, par votre père, par votre mère, par votre nourrice, qui sans doute vivent encore, de me vendre non seulement votre taureau, mais aussi votre pigeon, qui lui paraît tant affectionné. Pour vos autres bêtes, je n'en veux point, mais je suis fille à tomber malade de vapeur si vous ne me vendez ce charmant taureau blanc qui fera toute la douceur de ma vie. » La vieille lui baisa respectueusement les franges de sa robe de gaze et lui dit
« Princesse, mon taureau n'est point à vendre. Votre illustre mage en est instruit. Tout ce que je pourrais faire pour votre service serait de le mener paître tous les jours près de votre palais. Vous pourriez le caresser, lui donner des biscuits, le faire danser à votre aise. Mais il faut qu'il soit continuellement sous les yeux de toutes les bêtes qui m'accompagnent et qui sont chargées de sa garde.
S'il ne veut point s'échapper, elles ne lui feront point de mal. Mais s'il essaye encore de rompre le chachène, comme il a fait dès qu'il vous a vu, malheur à lui, je ne réponds pas de sa vie. Ce gros poisson que vous voyez l'avalerait infailliblement et le garderait plus de 3 jours dans son ventre, ou bien ce serpent, qui vous a paru peut-être assez doux et assez aimable, lui pourrait faire une piqûre mortelle. »
Le taureau blanc, qui entendait à merveille tout ce que disait la vieille, mais qui ne pouvait pas parler, accepta toutes ces propositions d'un air soumis. Il se coucha à ses pieds, mugit doucement, et regardant Amasside avec tendresse, il semblait lui dire « Oh, venez me voir quelquefois sur l'herbe. » Le serpent prit alors la parole et dit « Princesse, je vous conseille de faire aveuglément tout ce que mademoiselle d'Andorre vient de vous dire. » L'ânesse dit aussi son mot et fut de l'avis du serpent. Amasside était affligé que ce serpent et cette ânesse parlassent si bien et qu'un beau taureau qui avait les sentiments si nobles et si tendres ne pût les exprimer. « Hélas, rien n'est plus commun à la cour, disait-elle tout bas. On y voit tous les jours de beaux seigneurs qui n'ont point de conversation et des malotrus qui parlent avec assurance. »
« Ce serpent n'est point un malotru, dit Membresse, ne vous y trompez pas. C'est peut-être la personne de la plus grande considération. »
Le jour baissait. La princesse fut obligée de s'en retourner après avoir bien promis de revenir le lendemain à la même heure. Ces dames du palais étaient émerveillées et ne comprenaient rien à ce qu'elles avaient vu et entendu. Membresse faisait ses réflexions. La princesse, songeant que le serpent avait appelé la vieille mademoiselle, conclut au hasard qu'elle était pucelle et sentit quelque affliction de l'être encore. Affliction respectable qu'elle cachait avec autant de scrupules que le nom de son amant.